France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les maisons seront rachetées pour pouvoir démolir les biens et progresser sur le projet de renaturation des berges en faisant une zone d'expansion de crue. On n'a plus le choix.
Plutôt que d'évacuer les gens, c'est quand même bien mieux de s'inspirer de ce qui marche ailleurs, en Asie du Sud-Est, où en fait, les gens se sont adaptés à la crue. Il est là l'enjeu. Comment arriver à vivre avec l'eau ?
On n'arrivera jamais à empêcher toutes les inondations. En revanche, il y a un certain nombre d'actions qui, dans le respect de l'environnement, peuvent être conduites, et c'est ce que nous faisons pour réduire le risque.
Familles évacuées, routes coupées, écoles fermées, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan sont mises à rude épreuve sous l'effet d'une succession de dépressions qui ont entraîné d'impressionnantes inondations. Il y a clairement un lien établi entre le dérèglement climatique et les inondations, déclare sur Ici Armorique la ministre de la Transition écologique. Il est essentiel de regarder ce que va être notre futur avec ces événements climatiques, ajoute Agnès Pannier-Runacher. Il faut revoir notre aménagement, construire dans des zones plus protégées et accompagner ceux qui habitent dans des zones qui vont devenir inhabitables par nature. L'Ouest n'est pas seul concerné. En métropole, près de 17 millions de personnes résident en zones inondables par débordement de cours d'eau, sans compter donc les ruissellements, remontées de nappes souterraines ou les submersions marines. La première région impactée par les inondations, c'est l'Île-de-France, territoire le plus peuplé et le plus riche du pays. Une crue de la Seine comme celle de 1910 représenterait une catastrophe économique majeure, 30 milliards d'euros de dommages directs selon l'OCDE. Or, en juin 2016, sur les affluents de la Seine, notamment le Loing, les records de niveau de crue de 1910 ont été battus. En janvier 2018, sur les vallées de la Seine et de la Marne, il a fallu évacuer plus de 1500 personnes. En octobre 2024, enfin, la tempête Kirk a provoqué des inondations dans toute l'Île-de-France. Le risque est établi, toutes les communes franciliennes sont concernées. Alors qu'est-ce qui est mis en œuvre pour limiter le risque et circonscrire les potentiels dégâts ? Inondation, vigilance en Île-de-France, c'est un reportage signé Marie-Aimée Copleutre. Bonjour Marie-Aimée.
Bonjour Aurélie.
Le bassin parisien est donc vulnérable au risque d'inondation. Quelles sont les zones les plus à risque ?
Alors, déjà, la première chose à avoir en tête, c'est que l'ensemble de l'Île-de-France est potentiellement exposé au risque d'inondation. Un tout petit chiffre à retenir, au cours des 50 dernières années, 92% des communes franciliennes ont connu une inondation et ont obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Après, si l'on regarde en détail, on peut dire globalement que deux zones sont très exposées, la vallée de la Seine notamment, la proche banlieue au sud-est de Paris, par exemple Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Créteil, le nord-est de la Seine-et-Marne aussi, avec des communes proches des rivières appelées le Grand Morin et la Ferté-Gaucher. En octobre dernier, récemment, avec la tempête Kirk, 140 communes de la Seine-et-Marne ont eu les pieds dans l'eau. À l'inverse, les secteurs moins concernés sont le sud de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, l'ouest des Yvelines ou encore le nord du Val d'Oise, des territoires plus ruraux qui bénéficient notamment de la présence de massifs forestiers, Fontainebleau, Rambouillet, qui captent l'eau. De mon côté, je n'ai pas pu parcourir l'ensemble de l'Île-de-France, mais je me suis intéressée aux communes proches de l'Yerre, une rivière qui parcourt 98 km en Île-de-France et qui déborde très souvent. Je me suis rendu dans trois départements, la Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val-de-Marne.
Deux invités sont en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour Charles Perrin.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et bonjour Simon Carrage.
Bonjour.
Vous êtes géomaticien. En clair, vous fabriquez des cartes, comme vous dites, pour l'Institut Paris Région qui réalise des études et des recherches sur l'aménagement et l'urbanisme en Île-de-France. Nous allons écouter ensemble le reportage de Marie-Aimée Copleutre. Tout de suite, nous allons dans le Val-de-Marne, à Villeneuve-Saint-Georges, où des mesures radicales sont prises pour prévenir les inondations. Tout un quartier va être détruit.
Alors là, je me trouve dans le quartier Belle Place Blandin, c'est à Villeneuve-Saint-Georges, à 17 km au sud-est de Paris. Derrière moi, on entend l'Yerre, la rivière qui traverse donc le département du Val-de-Marne et une partie de l'Essonne. Et c'est juste à côté de cette rivière que se trouvent les maisons qui vont être démolies. pour vous décrire un petit peu, autour de moi, les maisons, elles sont plutôt délabrées. En fait, ce sont des maisons qui ont été abîmées par les inondations. Par exemple, il y a des planches de bois sur certaines fenêtres ou encore des morceaux de polystyrène. Et ce qui me frappe, c'est tous ces panneaux bleus qu'on trouve une maison sur deux, un panneau bleu qui indique en fait un permis de démolition. Là, par exemple, je lis 74 rue des Pêcheurs, permis de démolir janvier 2018. Et ce qui me frappe aussi, c'est ce camion de déménagement en plein milieu de la rue, avec sur le trottoir posé une machine à laver, un canapé, un porte-manteau. Et en fait, ce camion, c'est à l'image de ce quartier. C'est-à-dire que les habitants partent au fur et à mesure du quartier Belle-Place-Blandin. Bonjour monsieur, je fais un reportage sur les inondations à Villeneuve. Et donc à côté de vous, la maison, elle est démolie.
Ça fait deux jours qu'ils ont commencé les travaux, ils la démolissaient tout là.
Et vous habitez où là en ce moment?
Ben j'habite ici madame.
Dans la caravane?
Ouais, dans les caravanes, oui.
Et vous êtes là depuis longtemps?
Ça fait 16 ans que j'habite ici.
Et donc vous allez devoir partir alors?
Ben oui. Ils m'ont dit, le Grand Paris m'a dit que si je ne sortais pas du terrain, qu'ils venaient carrément avec les forces de l'ordre. Je leur ai expliqué que j'étais handicapé et tout, que je ne pouvais pas tirer les caravanes. Et ils ne veulent rien entendre, ils m'ont laissé un mois pour partir.
Là, vous avez un mois pour partir?
Oui, un mois pour partir, mais madame, je suis matou sur le bord de la route. Ils voulaient que je fasse quoi?
Et ils n'ont pas de solution de relogement pour vous?
Et ils m'ont dit que pour l'instant, il faut attendre.
Ce terrain où vous habitez depuis 16 ans, vous l'avez acheté?
Oui, madame. Ils veulent me donner 10 000 euros. Ils voulaient que je fasse quoi avec 10 000 euros? Vous ne pouvez rien faire, madame. Vous pouvez même pas une location ou quelque chose comme ça, c'est impossible.
Pour Michel et les quelques 1300 habitants qui vivent dans ce quartier, l'expulsion est douloureuse à vivre. Fanny Mpika a acheté un pavillon avec son mari il y a 15 ans. Ces 8 dernières années, sa maison a été inondée 4 fois.
Il nous a fait sortir tout ça depuis le mois d'avril.
Et l'eau, elle est rentrée dans votre maison ici, là?
Oui, 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 il a rentré. La première fois, il a rentré jusqu'à là, il m'a fait couper
les plaques de placo.
Voilà.
Donc jusqu'à 50 cm.
Voilà, et la dernière fois que c'était le mois d'octobre, c'était jusqu'à là.
Donc elle est rentrée dans votre salon?
Notre salon, oui, oui, oui.
Et vos canapés ont été abîmés, oui, vos tapis?
Les petites choses, nous, toujours, maintenant, on prend l'habitude, on le met sous les billards, okay. Par exemple la table, tout ça. Les canapés, déjà, il est pourri, mais on ne peut pas faire rien, on a besoin.
Et vous chauffez beaucoup plus, du coup, pour éviter que...
Oui, ça nous coûte très cher, parce qu'il faut le faire, parce que si on ne le chauffe pas, la humidité, il monte.
C'est triste pour nous. Hein. Mon mari, il a travaillé 24 sur 24. Il est tombé malade. C'est ça, ok. Nous, ça fait mal. Le sacrifice qu'on a fait, pour rien.
Vous êtes un peu en colère, aussi.
Oui, beaucoup. Parce que c'est facile pour tout le monde de dire, vous venez à la maison, mais on ne se rend pas compte. Notre sacrifice. Et nous, on a perdu beaucoup de choses.
Avec les inondations, comme on a fait la... Au total, 10 hectares et demi de la ville vont être rasés. Une solution radicale, mais la seule envisageable dans l'urgence pour les élus. Christelle Niasme, conseillère départementale du Val-de-Marne.
On n'a plus le choix. Il y a une opération nationale qui a été mise en place à partir de 2016. Où on a plusieurs partenaires comme l'État, la région, le département, tous des énormes financeurs. Donc il y a deux phases qui sont financées à presque 100 millions d'euros sur les deux phases pour pouvoir acquérir le foncier, racheter, démolir les biens et progresser sur le projet de renaturation des berges en faisant un terrain, une zone d'expansion de crue.
Donc là, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, les trottoirs, les maisons, les arbres, les portails, tout ça, ça va être détruit et dans les prochaines années, ce sera de la terre et l'eau viendra ici en fait.
Exactement. Dans l'avenir, dans un avenir plus ou moins proche, eh bien, les maisons seront rachetées. Donc ça, c'est une négociation qui a lieu avec les familles pour qu'elles puissent se reloger dans les meilleures conditions possibles, bien évidemment.
Et où justement ?
Alors ça c'est la source des inquiétudes pour nos familles et c'est légitime parce que malheureusement, eh bien parfois, les montants des rachats qui est proposé, eh bien, il peut avoir des inquiétudes. C'est parfois pas assez. Le foncier chez nous, il se cède à des sommes qui sont pas forcément extrêmement élevées. Hein. Ça, c'est une réalité pour tout Villeneuve-Saint-Georges et à plus forte raison sur le quartier du Blandin. Et c'est toute la difficulté de retrouver le moyen de se loger derrière. Maintenant, c'est d'accompagner au mieux les familles dans cette démarche pour qu'ils puissent se reloger demain dans les meilleures conditions possibles.
Par exemple, tout à l'heure, juste à l'entrée de la rue, il y avait un monsieur qui habitait dans une caravane sur un terrain, je lui ai parlé. Voilà, Monsieur Dujardin, exactement. Vous
le connaissez ? Ah oui, oui, comme beaucoup de nos familles. C'est une vraie inquiétude pour Monsieur Dujardin parce que...
On lui a promis 10 000 euros en échange de son terrain.
C'est une situation qui est très complexe, comme beaucoup d'autres, parce que il y a la question du foncier. Et effectivement, les solutions qui sont proposées parfois ne sont pas adaptées. C'est une vraie illustration du quotidien de nos familles. Les solutions qui seraient envisagées, c'est effectivement parfois des logements sociaux pour des familles qui n'en veulent pas aujourd'hui. Donc là, c'est un travail de fond où il faut accompagner. Parce que là, on est bien d'accord que... Dire à nos familles, vous trouverez forcément sur le territoire, ce serait mentir à nos familles, ce n'est pas acceptable.
Vous avez commencé à chercher un petit peu ou pas ?
Oui, et j'ai commencé à chercher, mais vous savez...
Est-ce que vous allez recevoir combien ?
Je suis entre 360, mais vous savez qu'on déménage, il faut penser...
Aux frais de déménagement, aux frais de notaire, donc c'est une en plus.
Pas assez.
Curiosité pour les Parisiens. Le zouave du pont de l'Alma a de l'eau jusqu'aux hanches. On est encore loin de la côte de 1910... Mais les précautions ont été prises au long de la Seine et les bouches d'égouts surélevées. Si elle n'est encore qu'une curiosité à Paris, la crue a pris un tout autre sens en banlieue, où des quartiers entiers sont inondés. C'est plus spécialement à Villeneuve-Saint-Georges et Villeneuve-le-Roi que la menace s'est affirmée. Dans les secteurs bas, les bateaux ont remplacé tous les véhicules à roues. Nombre de pavillons ont été abandonnés par leurs habitants.
C'était la crue de 1959 qui avait déjà touché les communes limitrophes de Villeneuve-Saint-Georges et de Villeneuve-le-Roi.
Bonjour madame, enchantée.
Depuis, Villeneuve-le-Roi a œuvré pour garantir à ses habitants, situés à quelques mètres de la Seine, de pouvoir rester dans leur quartier sans risque majeur. Dans son bureau, le maire, Didier Gonzalez, déplie la carte des zones inondables.
Alors sur la carte, est-ce que vous pouvez montrer, par exemple en 2016, j'ai lu plus de 2000 personnes évacuées pendant les inondations. Où alors, c'est sur la carte ?
Oui, alors en fait, c'est toute la partie qui se trouve en partie basse de la ville et donc quasiment dans le lit du fleuve. Alors, ce sont
sur la Seine, en fait là, la Seine est vraiment à quelques mètres des habitations.
C'est ça, ce sont des gens qui ont la très très grande chance de vivre en bord de Seine l'été et tout le reste du temps parce que c'est formidable, c'est très très agréable comme les bords de Marne, les bords de Seine, etc. C'est très prisé, mais il faut qu'on trouve des solutions pour les cas très exceptionnels, mais néanmoins qui risquent de se produire, pour trouver des solutions pour qu'il y ait le moins de dégâts possible. En fait, on est parti d'un principe qui consiste à dire que plutôt que d'évacuer les gens, ce qui pose des problèmes terribles, c'est quand même bien mieux de s'inspirer de ce qui marche ailleurs, c'est-à-dire en Asie du Sud-Est, dans les zones d'expansion des eaux de la Loire, etc., etc., où en fait, les gens se sont adaptés à la crue. Il est là l'enjeu. Comment arriver à vivre avec l'eau ? Pour qu'on n'évacue personne. Et pour n'évacuer personne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut prévoir que l'électricité arrive en permanence. C'est fondamental, parce qu'il n'y a pas de vie sans électricité, surtout l'hiver. Donc, nous avons développé sur la ville, en collaboration avec Enedis, les rehaussements des compteurs. Donc, on a toujours de l'électricité. Et le deuxième élément qui est fondamental, c'est pouvoir vous ravitailler. Et pour pouvoir vous ravitailler, alors même que vous avez de l'eau partout, il faut qu'on prévoie des axes dont nous sommes sûrs qu'ils ne seront pas inondés. Nous les avons baptisés axes stratégiques, à partir desquels on va pouvoir ravitailler toute la population en nourriture, en tout ce dont ils ont besoin, de façon à ce que l'inondation, qui est toujours un temps très court dans nos régions, les quelques jours difficiles à passer, puissent se passer le plus naturellement possible. Alors certes, on a le jardin inondé, on va avoir sa cave inondée, d'accord, mais ça n'empêche pas de vivre sur place. Et une fois que l'inondation est passée, la vie retrouve tout son charme, y compris le charme d'habiter en bord de Seine.
Allez, en route, mauvaise troupe.
S'adapter aux inondations par débordement de la Seine, mais aussi aux inondations par ruissellement de l'eau de pluie, qui sont aujourd'hui plus intenses et plus soudaines avec le dérèglement climatique. Pour cela, la municipalité a travaillé sur le concept de ville-éponge, absorber l'eau de pluie par la nature. Didier Gonzalez, dans sa voiture, décrit ses aménagements.
Nous avons beaucoup réfléchi avec des cabinets d'urbanistes et de paysagistes. Et il ressortait toujours qu'il fallait s'inspirer des villes, des lieux, notamment en Norvège, par exemple à Trondheim, en Hollande aussi, où ils ont à gérer ce type de choses. Donc, on n'invente pas l'eau chaude non plus. On est en train de retrouver des procédés qui ont fait leurs preuves. Il s'agit par la végétation, le choix de la végétation qui capte beaucoup d'eau. Les saules, par exemple, prennent énormément d'eau. Vous avez une sorte de fossé végétalisé qui va capter l'eau. Et vous voyez qu'on n'a pas de bordure, et puisque pour permettre à l'eau de s'infiltrer là, ici, et aller sur le côté. On a sacrifié un trottoir, mais on a traité l'inondation. Donc le but du jeu, capter, capter, capter.
Capter l'eau qui ensuite, après, va dans les nappes phréatiques.
Exactement, c'est une infiltration naturelle. Parce que vous voyez, en région parisienne, il y a quand même un paradoxe extraordinaire. C'est que nous avons une végétation qui souffre de sécheresse, et que pour autant, nous avons des inondations. C'est quand même incroyable. Ben, ça veut dire que comme on a tout bétonné, on a tout bitumé, et ben, résultat des courses, l'eau inonde partout, mais ne va pas dans la végétation. Donc là, nous arrivons, nous sommes dans le lit du fleuve. Hein, voilà. Et donc, sur la partie basse, en bordure de fleuve...
Donc ça, c'est des habitations qui ont pu être inondées en 2016 autour de nous.
Voilà, 2016-2018, l'eau est arrivée jusqu'ici. Alors là, sur le parc du bord de l'eau, c'est un ouvrage qui a été fait spécifiquement pour l'inondation. Okay. Et en réalité, c'est un très vaste bassin d'orage qui a été traité en jardin. Donc, il est destiné à être inondé prioritairement par l'eau de la Seine et ainsi essayer de stocker le plus d'eau dans ces endroits-là plutôt que l'eau n'aille ailleurs.
D'accord.
Ces espaces sont désimperméabilisés. Ouais. La vocation, c'est l'infiltration.
Et donc là, c'est... là
on... pavé disjoint.
Pavé disjoint.
Donc, vous avez de l'herbe et ça absorbe. Les places de parking, c'est pour permettre l'infiltration. C'est ou du gravillon ou de l'herbe. Là aussi, stocker, stocker, stocker.
Donc, juste un bassin de...
Vous allez voir, il est là. Et comment tout ceci fonctionne? Eh bien, tout ceci est monté en réseau. C'est-à-dire que au lieu de faire circuler l'eau dans le cas des précipitations, par exemple, lorsqu'il pleut très fort, au lieu de faire circuler l'eau dans des tuyaux, ces tuyaux n'ont pas été dimensionnés pour accueillir de très fortes précipitations. Et c'est la raison pour laquelle, au lieu de faire des tuyaux, eh bien, nous avons fait des fossés. Là, par exemple, nous sommes au-dessus d'un fossé qui a une capacité beaucoup plus importante que les tuyaux. En plus, ces bassins qui sont des fossés végétalisés. Ils ont des vertus, c'est que eux-mêmes vont absorber. Et en plus, on a planté des roseaux. Et ça a vocation à prendre l'eau. Et toute l'eau captée ici, eh ben, ça fait en moins ailleurs. Et ce réseau de noues, de fossés, vous voyez qu'en pied d'immeuble, eh bien, vous avez des petits fossés. Ces petits fossés vont dans des fossés moyens qui viennent dans des gros fossés. Et à la fin, lorsque tout est rempli, eh bien, ça vient inonder le parc ici, qui se remplit d'eau. Quand les bassins sont pleins, ça vient dans le parc du bord de l'eau.
Ça circule comment d'un bassin à un autre ?
Ils sont en communication. Et là encore, on gère l'eau. C'est-à-dire que l'eau est retenue et graduellement de la même manière. Ça va d'abord inonder cette partie-là. Quand ça dépasse un certain niveau, ça vient inonder la deuxième partie, ce qui permet d'avoir certaines fois, par exemple, seulement cette partie inondée et les gens du quartier peuvent profiter du parc partout ailleurs au lieu d'avoir de la boue partout. Et puis, on a des grenouilles, on a des petits crapauds. Alors, les gosses, ils s'en foutent avec ça.
À Villeneuve-le-Roi, l'objectif est d'intervenir pendant ou après l'inondation. Néanmoins, éviter des dégâts colossaux, c'est également intervenir avant que les fleuves et rivières ne débordent. C'est le rôle, depuis 1949, des quatre grands lacs réservoirs situés au sud-est de Paris. Réservoirs qui réduisent la Seine de 60 à 70 cm en stockant l'eau de l'Yonne, de la Marne et de l'Aube. À eux quatre, ils captent 800 millions de mètres cubes d'eau. Or, si ces lacs agissent bien en amont de la Seine et de la région parisienne, que se passe-t-il lorsqu'il pleut en aval ? C'est ce qu'il s'est passé en 2016. La pluie est tombée entre ces lacs et Paris. L'Île-de-France s'est retrouvée inondée. Pour combler cette vulnérabilité, une immense station de pompage a été construite en Seine-et-Marne. Elle a été inaugurée le 15 janvier de cette année. Me voici dans la vallée de la Bassée, à 100 km de Paris. Il faut s'imaginer une étendue à perte de vue, de végétation et d'étang. Le paysage est assez sauvage et là, ce matin, dans la brume, j'ai l'impression de me retrouver dans des marais. C'est également une réserve d'oiseaux importante. Cet hiver, par exemple, on peut trouver des nettrousses, des foulques macroules, des cormorans ou encore des hérons cendrés. Alors même si là, ce qu'on entend derrière moi, en ce moment, ce ne sont pas des oiseaux, mais plutôt des pompes qui aspirent l'eau. En effet, à quelques mètres des arbres, se trouve tout un enchevêtrement de béton, d'acier, qui compose la structure de ce qu'on appelle un casier, qui a pour objectif de retenir l'eau. Emmanuelle Lucas, vous êtes la directrice du projet de la Bassée à Seine-Grand-Lac. Là, on a des pompes qui aspirent l'eau. En ce moment, c'est bruyant. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est leur rôle ?
Alors là, on est sur les fosses des pompes. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, puisque là, on a mis en route 7 pompes à 6 mètres cubes secondes. Donc on a 42 mètres cubes secondes qui permettent de remplir les 10 millions de mètres cubes.
Et ce casier-là, c'est quoi en fait son objectif ?
Alors en fait, nous avons construit un espace endigué. Ça veut dire qu'on a d'abord construit une digue. Donc là, elle fait 7,6 km. En gros, c'est vraiment un rectangle en fait. Ces 7,6 km permettent de stocker 10 millions de mètres cubes. Ces 10 millions de mètres cubes, comment on arrive à les faire rentrer dans cet espace endigué ? Grâce à une station de pompage qui est en bord de Seine et qui, au bon moment, va pomper la Seine, freiner la Seine pour laisser passer le pic de crue de Lyon. Et grâce à ça, à partir de Montreux jusqu'à Paris, on va freiner la Seine. À ce moment-là, on va faire baisser le niveau de la Seine et finalement de Lyon à Paris. Et le bénéfice principal qu'on peut retenir sur cet ouvrage d'espace endigué 10 millions de mètres cubes pompés à 42 mètres cubes secondes dans la Seine, c'est moins 15 cm vraiment à Paris. Il faut imaginer que ça peut être plusieurs stations de métro qui ne seront pas inondées, plusieurs quartiers entiers qui ne seront pas inondés. Et on estime 30 à 50 millions d'euros de dommages évités en fait, dans toutes les zones urbanisées à l'aval de l'ouvrage, donc entre Montreux et l'Île-de-France.
Alors l'eau, elle n'est pas pompée tout le temps, elles sont en action seulement quand il y a des crues, mais quand le site il est inondé, c'est aussi tous ces étangs privés que l'on voit, ces marais qui sont inondés.
En fait, à l'intérieur du site, il y a plusieurs étangs et plusieurs espaces boisés. Donc il y a beaucoup d'usages de pêche, de chasse aussi à l'intérieur de cet étang. Et ça, c'était aussi la volonté de Seine-Grand-Lac en construisant l'ouvrage. C'est en période hors crue, donc majoritairement du temps, on maintient tous les usages et tout le fonctionnement pendant la période, ce que nous on appelle le temps calme, hors crue. Alors en fait, il n'y avait pas de construction, on va dire habitation. C'était des petites huttes de chasse, en fait, par exemple, ou des propriétaires qui avaient construit des petits cabanons pour un petit usage complètement récréatif où ils ne vivaient pas. Tout ça, on a travaillé avec eux justement pour définir, regarder la vulnérabilité de ce bâti à l'inondation, puisqu'on va les inonder. Et dans ce cas-là, là, on travaille avec eux pour les remplacer par soit des choses mobiles qu'on pourrait bouger au moment de l'alerte, soit du bâti qui ne serait pas vulnérable à l'inondation que l'on a.
Urgent, opération de mise en eau du casier pilote de la Bassée.
Un chantier qui a coûté 146 millions d'euros à l'État, à l'établissement public Seine-Grand-Lac et à la métropole du Grand Paris. Dépenses nécessaires, estime Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris.
150 millions d'euros pour éviter plusieurs dizaines de millions, voire peut-être milliards, mais certainement dizaines de millions ou centaines de millions d'euros de ravages, des inondations et de paiements des indemnités par les assurances, par l'État et par tous ceux qui ont à payer des dégâts des eaux en cas d'inondation, c'est pas cher payé. Je préfère investir ces 150 millions d'euros pour ce casier pilote que de voir l'État, les collectivités, les assurances payer plusieurs dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros des dégâts des inondations, parce qu'il y a quand même 2 millions de personnes concernées par les dégâts des inondations tout le long de nos fleuves dont je parlais, l'Yonne, la Marne et la Seine, et le Loing aussi, depuis le début de leur source jusqu'à ici où nous sommes à la Bessée. Donc c'est un calcul gagnant-gagnant.
Gagnant-gagnant, ce n'est pas ce que pense l'association France Nature Environnement, qui s'oppose au pompage électrique de l'eau. Elle estime que ce bassin de rétention de 360 hectares a affecté la faune et la flore de la plus grande zone naturelle d'Île-de-France. Elle a déposé un recours au tribunal administratif qui a été rejeté. L'association a fait appel. Jean-François Dupont, le président France Nature Environnement du Val-de-Marne.
Ce grand chantier a un impact limité, alors qu'il y a beaucoup à faire en matière d'utilisation, disons, des fonctions naturelles le long du fleuve. Je pense que si on veut avoir un impact sur le niveau des inondations, il faut travailler sur la désartificialisation des sols, par exemple, sur le fait que les terres agricoles qui sont en amont, en surplomb de la Seine, ne déversent pas l'eau par ruissellement parce que, en fait, on a enlevé les haies. On a drainé les parcelles de telle façon à ce que l'eau soit évacuée le plus possible. Et elle se retrouve dans le lit de la Seine, alors qu'auparavant, elle pouvait s'imprégner dans le sol et gagner la nappe phréatique.
Oui, les, aussi tout ce qui est utilisé, les pesticides, imperméabilisent aussi certains sols agricoles.
Oui, les pesticides et puis les labours intensifs du sol ont tendance à le tasser et la terre devient dure par rapport à l'imprégnation de l'eau et du coup elle a tendance à ruisseler et les pesticides n'arrangent pas bien sûr les choses parce que d'abord ils se retrouvent dans les eaux de ruissellement et de toute façon ils concourent à ce que la terre soit stérile et ce que nous on a préconisé c'est qu'on développe le plus possible cette technique de création de zones naturelles de rétention des eaux. Ça suppose des aménagements de façon à ce que l'eau ne soit pas canalisée dans le cours du fleuve, mais puisse s'épandre plus facilement, provisoirement. La Bassée, au départ, elle jouait ce rôle, elle joue toujours ce rôle. Et donc, l'idée, c'est d'en faire un élément systématique pour utiliser au maximum cette possibilité-là. Ce grand chantier, c'est quelque chose qui correspond à une vision ancienne du traitement des crues, mais qui n'est pas forcément approprié à la situation actuelle et peut-être aussi au renforcement du dérèglement climatique qui provoque d'autres types de phénomènes avec des inondations soudaines, etc. Donc il y a un certain nombre de facteurs liés à l'aggravation de la crise climatique qui ne sont pas forcément intégrés dans ce genre de projet.
Seine Grand Lac, l'établissement public qui mène le projet depuis plus de 10 ans, se défend. Baptiste Blanchard, le directeur général.
Alors, la Bassée est effectivement une zone humide naturelle d'importance en Île-de-France, qui a une fonction essentielle, mais qui a été finalement très dégradée à la fois par l'exploitation de gravières pour fournir des matériaux pour la construction des zones urbaines d'Île-de-France, ce qui fait qu'on a un espace qui fonctionne beaucoup moins bien au plan de la biodiversité. Donc en fait, notre projet, déjà, il a fait l'objet d'une autorisation environnementale de l'État, donc à ce titre-là, on a une obligation de mesures compensatoires, donc de mesures environnementales pour compenser les impacts sur la biodiversité, et nous avons souhaité aller au-delà. Et donc au-delà des mesures compensatoires, on a fait aussi des mesures de valorisation écologique qui permettaient d'aller restaurer encore davantage de surface. Donc concrètement, nous avons un engagement de compensation ou de valorisation de 120 hectares. Sur ces 120 hectares, nous restaurons la biodiversité, donc on a replanté des milliers d'arbres en fait, et où on a aussi recréé des zones de roselières, où on n'aura plus d'arbres, mais on aura donc des roseaux, et des plantes, des hélophytes, des plantes aquatiques, pour retrouver des milieux naturels qu'on trouvait dans la Bassée avant les dégradations que j'ai citées tout à l'heure. Nous avons également travaillé sur les espèces invasives. Nous avons une plante qui s'appelle la renouée du Japon. Donc nous avons fait en sorte de supprimer en fait cette espèce de l'espace sur lequel nous travaillons. Nous avons également pris des mesures pour certaines espèces en particulier. Je vais en citer deux. Le muscardin qui est un petit rongeur pour lequel on a pris des mesures particulières de protection. On a fait des petits abris pour cet animal. Petits abris en pierre sèche, par exemple. Et puis, nous avons également une espèce d'oiseau, la sterne, pour laquelle nous avons mis en place des radeaux artificiels qui sont sur les étangs. Et en fait, ça recrée un milieu de ponte pour la sterne. On a restauré manière artificielle certes, mais ces milieux-là, et ça fonctionne. C'est-à-dire que dès l'année 2023, on avait mis un an avant les radeaux en place, on a pu mesurer les premières reproductions et avoir les premières naissances sur ces ouvrages-là.
En conclusion, le projet de la Bassée ne met pas à mal la biodiversité de la Bassée.
Ce projet-là, en fait, il a été autorisé par l'État justement pour compenser ses impacts. Et nous faisons une surcompensation de ces impacts, donc on peut considérer que le bilan est positif pour la biodiversité.
France Nature Environnement a proposé des solutions alternatives, mais qui ne seraient pas assez efficaces, selon Baptiste Blanchard.
Alors, France Nature Environnement a évoqué effectivement un projet alternatif qui consistait à essayer de restaurer une zone d'expansion des crues beaucoup plus vaste. Et donc, ce projet-là a été soumis et nous l'avons contre-expertisé, ce qui était tout à fait légitime et naturel dans le cadre du débat. Et en fait, la différence, c'est qu'il avait plusieurs problématiques, c'est-à-dire que pour bien fonctionner, ce projet-là aurait nécessité de revoir le fonctionnement, voire de supprimer les barrages de navigation qui sont dans la Seine. Et notre projet Seine-Bassée s'inscrit dans le contexte tel qu'il l'était lorsqu'on a commencé la construction, c'est-à-dire le contexte de la navigation qui existe, qui a des bénéfices économiques ou pour le transport décarboné, pour lequel nous n'avions pas la légitimité de remettre en question la navigation sur la Seine pour faire ce projet-là. Donc le projet alternatif qui vise en fait à apporter l'eau de manière gravitaire, naturelle, n'était pas praticable parce que nous n'avions pas cette légitimité-là, nous, de remettre en question la navigation sur la Seine. Le deuxième sujet, c'est qu'il consistait en l'édification tout de même de petites digues, certes moins hautes, mais sur un linéaire beaucoup plus important et de manière très rapprochée vis-à-vis des villages. Ce qui, vous le comprendrez, n'est pas forcément une bonne idée, à la fois pour les habitants et puis même en termes de risque d'avoir des digues qui sont très très proches et qui ceinturent les villages. C'est quelque chose qui ne nous paraissait pas adaptable. Et le dernier point, qui est peut-être aussi le plus important, c'est que tout le concept en fait, du casier pilote de la Bassée, c'est de pouvoir capter une grande quantité d'eau de la Seine en très peu de temps pour vraiment ralentir la Seine au bon moment lorsque la crue de Lyonne arrive 10 km à l'aval à la confluence à Montereau. Et en fait, pour faire ce rôle d'aiguilleur, il était indispensable d'avoir la capacité technique de prendre l'eau au bon moment. Et fonctionner sur un ouvrage qui était certes plus naturel sur une surface plus importante, n'aurait pas permis en fait de prendre l'eau au bon moment. On aurait déjà eu un remplissage un peu avant et un peu après le pic de crue, et donc on n'aurait pas eu du tout le même effet sur la réduction des inondations dans la région parisienne. Or, on doit aussi, cet ouvrage est conçu pour protéger les presque 900 000 habitants de l'agglomération parisienne qui sont en zone inondable, mais aussi, on l'oublie parfois, les 5 millions d'habitants qui peuvent être concernés par les effets indirects d'une crue majeure de la Seine sur le réseau d'eau potable, sur le réseau de transport, sur les réseaux d'énergie, de chaleur, d'assainissement, etc., etc.
Or, le casier de rétention de la Bassée ne suffira pas à contenir les crues de la Seine et de ses affluents. Pour répondre aux inondations, l'ensemble de l'Île-de-France et ses 7380 km de cours d'eau doit être surveillé et réhabilité. L'idée est de ne plus canaliser, boucher ou détourner les rivières, mais de leur redonner leur cours naturel. C'est ce qu'a entrepris le syndicat d'eau de la vallée de la Rivière-Yère, le SIAGE, à Montgeron, en Essonne. Sandrine Lefort, la responsable de la gestion des milieux aquatiques au syndicat d'eau.
Nous sommes le long de l'Yère, qui est un affluent de la Seine. Donc là, nous sommes dans une zone d'expansion de crue de l'Yère, la plaine de Chalandray. Donc on a à peu près 17 hectares qui sont inondés lors des crues de l'Yère. Ce sont des champs qui aujourd'hui, au-delà d'être une zone d'expansion de crue, sont exploités par un centre équestre. Donc ce sont des vastes zones de pâture, comme vous pouvez voir. Donc 17 hectares de surface enherbée, clôturée, avec différents enclos pour les chevaux. Alors là, nous arrivons sur le débouché du rue de la Navette dans l'Yère. Donc en fait, le rue de la Navette, c'est un petit affluent qui capte à peu près 220 hectares d'un bassin versant situé sur les communes de Montgeron et Yère. Donc qui collecte toutes les eaux usées de ce bassin versant, qui se rejette dans ce rue, et ce rue vient se rejeter directement dans l'Yère.
Et donc là, vous avez fait des travaux.
Alors en fait, notre objectif initial, c'était de restaurer les fonctionnalités hydrauliques de cette zone d'expansion de crue et de favoriser également le retour à de la biodiversité. Donc le fait que cet espace était juste une zone de pâture, du coup on avait une biodiversité très appauvrie, et nous on a voulu restaurer un peu tout ça, et notamment réouvrir le rue de la Navette, puisque sur à peu près 300 mètres linéaires, le rue de la Navette était canalisé.
En fait, rue, c'est pour dire petite rivière, c'est ça ?
Exactement, petite rivière.
Donc, donc cette petite rivière-là, on ne la voyait pas là. Là, on la voit, elle est un peu sinueuse, on peut s'approcher un peu.
Elle sinue sur à peu près 400 mètres linéaires maintenant. Et donc, elle contourne un petit boisement que vous pouvez voir là-bas, ce qu'on ne pouvait pas voir avant, puisque ce rue était canalisé tout droit et se rejetait directement dans l'Yerre.
Et c'était quoi le rôle de cette canalisation ?
Alors en fait, c'était justement pour remembrer un peu tous les champs à l'époque. Il y a eu diverses modifications du tracé du rue en fonction des époques. Et la dernière modification, c'était la canalisation de ce rue pour permettre le passage d'une pâture à une autre.
Donc en fait, on enferme en fait le rue, la petite rivière de la Navette, dans cette canalisation. C'était l'idée quoi. Mais...
Exactement, sauf que ça a posé des problèmes hydrauliques. Puisque vous avez un rue qui était assez large et d'un coup qui devait se canaliser dans une section de tuyaux très courte et en fait avec une grille devant qui captait donc tous les déchets qui arrivaient, ça bloquait la grille et en fait du coup le rue ne pouvait plus s'évacuer dans la canalisation et tous les volumes d'eau remontaient dans le rue et allaient inonder en fait les habitations qui se trouvent tout là-bas en amont du projet.
Donc maintenant, s'il pleut, s'il y a de fortes précipitations, qu'est-ce qui se passe en fait ?
Alors en fait du coup... Quand il pleut, on n'a plus ce problème de verrou hydraulique. Les eaux qui étaient collectées par le rue de la Navette sont dirigées dans ce rue, qui sinue maintenant dans la rivière. Donc on a un volume de stockage qui est beaucoup plus important. Et si on a des précipitations très importantes, ce rue déborde dans la plaine de Chalandray.
Et donc là, par exemple, en octobre dernier, vous avez été touché par les inondations ici ?
Oui, complètement. On a eu des inondations qui étaient beaucoup plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui.
Et alors, les maisons, est-ce qu'elles ont été inondées finalement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien non, elles n'ont pas été inondées. Donc, ce projet nous a permis de réduire, voire de supprimer ces inondations dans les habitations. Alors, supprimer, tout est relatif, puisque si le jour on sera sur une crue type 2016, comme nous en avons une, bien évidemment, on ne peut pas régler toutes les inondations liées à des événements extrêmes. Mais en tout cas, pour des événements fréquents, les inondations étaient supprimées.
Et les habitants sont plutôt satisfaits, j'imagine
Oui, ils sont satisfaits. Il y a toujours des inquiétudes parce que, malgré tout, certains ont été inondés, mais par des remontées de nappes dans leur sous-sol, qui n'ont rien à voir avec les aménagements que l'on a réalisés.
Pour le syndicat d'eau, la réussite du projet s'explique avant tout par une vision d'ensemble de la circulation de l'eau sur ce territoire. Romain Collas, le président du syndicat.
Un des progrès que nous avons accomplis ces dernières années, nous avons instrumenté le territoire. Autrefois, le sillage ne gérait la rivière que sur la basse vallée, sur les 18 communes. Désormais, c'est le cas depuis le 1er janvier 2020, le sillage est compétent sur l'ensemble du bassin versant. Nous avons mis à profit les 4 dernières années pour déployer des sondes un peu partout sur le territoire, sur le cours principal de l'Yerre, mais aussi sur ses affluents, puisque bassin versant de l'Yerre, c'est un réseau hydrographique de rues, de cours d'eau et de cours principal de 800 km. Donc on a déployé une quarantaine de stations de mesure sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet de connaître les niveaux de pluviométrie, de connaître les niveaux de l'Yerre à différents endroits, les niveaux des affluents, les débits, et de bâtir des prévisions pour savoir à peu près, parce que ce n'est pas une science exacte, à quel niveau l'IR est susceptible de monter en fonction des modèles météo. Donc ce n'est pas du tout une science exacte. Le déploiement de l'instrumentation est récent, mais les épisodes que nous venons de vivre vont nous permettre d'affiner nos modèles. On va d'ailleurs faire appel sans doute à l'intelligence artificielle parce que désormais nous sommes en capacité de collecter énormément de données. Il faut qu'on puisse les traiter. L'idée, c'est sans cesse d'affiner nos modèles pour affiner nos capacités à prédire les crues et ne pas simplement s'arrêter à prédire les crues. On a aussi des actions de fond qui visent à améliorer la résilience du territoire, c'est-à-dire à réduire le risque d'inondation. On n'arrivera jamais à empêcher toutes les inondations. En revanche, il y a un certain nombre d'actions qui, dans le respect de l'environnement, peuvent être conduites, et c'est ce que nous faisons pour réduire le risque, pour stocker l'eau à l'amont des zones urbanisées, pour faire en sorte que sur les crues les plus ordinaires, les débordements n'impactent pas les habitations. Et puis lorsque les crues sont très intenses, allonger le temps de montée des eaux pour permettre de mieux protéger les personnes et les biens.
Une prise de conscience, des efforts effectués dans certains territoires, mais qui restent encore trop inégales entre départements et communes franciliens.
En 2022, la Cour des comptes alertait, relevant le manque de coordination des acteurs sur les inondations. Inondation Vigilance en Île-de-France, c'était un reportage de Marie-Aimée Copleutre avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les invités de ce grand reportage sur le risque d'inondation sont Simon Carrage, géomaticien à l'Institut Paris Région, et Charles Perrin, hydrologue à l'INRAE. Je voudrais d'abord vous demander une précision, Simon Carrage. Quand on parle de zones inondables, sur quoi est-ce qu'on se base? Sur quels repères? Sur les records d'inondation qui ont déjà eu lieu?
Alors, en Île-de-France, on a un peu un problème de riche, c'est-à-dire qu'on a nombreuses zones inondables. Donc il y a d'abord des ce qu'on appelle des PHEC, des plus hautes eaux connues. Donc, ce sont des crues historiques. Donc on sait à telle année l'eau est montée jusqu'ici. Donc vous avez en tête 1910, on a entendu 1959 dans le reportage, la dernière grande crue de la Seine en 1982. Donc il y a ces crues historiques. Et ensuite, vous avez deux autres types de zonage. Le deuxième, c'est des zonages réglementaires, donc qui servent à réglementer l'urbanisation, à empêcher l'urbanisation ou bien à réglementer cette urbanisation dans le sens où vous avez le droit de construire comme ci, comme ça. Et puis, tout récemment, on a publié ce qu'on appelle des zones d'inondation potentielles. Donc, on modélise des inondations. On utilise des calculs de probabilité, je ne rentre pas dans le détail. Et donc c'est pour permettre de simuler l'inondation telle qu'elle pourrait se dérouler aujourd'hui en Île-de-France. Et donc ces dernières zones inondables nous servent à préparer ce qu'on appelle la gestion de crise pour essayer d'être mieux prêt en cas d'inondation en Île-de-France.
D'accord. Je me tourne vers vous, Charles Perrin. Face au risque d'inondation, on l'a entendu, différentes réponses peuvent être apportées. À Villeneuve-Saint-Georges, il a été décidé de détruire certaines habitations. À Villeneuve-le-Roi, on veut vivre avec la crue, avec ce concept de ville-éponge. Est-ce que ces deux villes auraient pu faire autrement? Est-ce que ce sont vraiment donc des choix de la part des élus? Ou est-ce que certaines solutions s'imposent d'elles-mêmes en fonction de la configuration d'un lieu?
Oui, alors il n'y a pas une solution unique pour lutter contre les inondations. Et en fait, on peut travailler sur deux volets. Sur le volet vulnérabilité, c'est-à-dire on va faire en sorte que les enjeux locaux soient moins exposés, moins vulnérables aux inondations. Et puis, on peut jouer sur le phénomène de crue, le phénomène d'inondation ou le phénomène de ruissellement en mettant en place des structures qui permettent une meilleure infiltration, un stockage, des protections locales, etc. Donc voilà, en fonction de la zone, on va choisir plutôt l'une, plutôt l'autre ou les deux en même temps. Sur le bassin de la Seine, ça a été rappelé dans le reportage, on a ces grands barrages à l'amont du bassin qui permettent de stocker l'eau. Donc ça va permettre de laisser, enfin de d'immobiliser un volume important d'eau pour faire baisser globalement le volume de crue. Et puis on a aussi des infrastructures qui peuvent permettre de faire en sorte que l'eau arrive moins rapidement à la rivière. Quand vous avez une crue, en fait, une crue, c'est beaucoup d'eau qui arrive dans un temps court à un endroit donné et qui va déborder. Donc en fait, vous pouvez faire en sorte que le volume soit moindre ou alors que ça arrive sur un temps plus long, ce qui va faire diminuer le niveau. Donc c'est un peu sur ces aspects qu'on peut jouer. Et donc il y a différents types d'aménagements. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était bien dit dans le reportage, on a plutôt tendance à aller vers un fonctionnement où on va essayer de vivre avec les inondations. C'est un phénomène naturel, l'inondation, la rivière a besoin de déborder, je dirais. C'est son fonctionnement écologique, c'est normal qu'elle déborde. Et donc on va essayer de vivre avec ces phénomènes-là. Et donc voilà, l'idée, c'est plutôt aller vers ça et faire en sorte que des quartiers supportent les inondations plutôt que y ait des dégâts à chaque fois qui vont devenir probablement plus fréquents avec le changement climatique.
Et alors, une décision à un endroit peut avoir un impact sur la commune voisine, voire encore plus loin, d'où l'importance de se coordonner, de se concerter entre communes.
Donc effectivement, la gestion de l'inondation, c'est pas seulement une gestion locale, parce que localement, on peut faire des digues pour éviter que ça déborde, mais ça va avoir pour effet d'augmenter la vitesse des écoulements et souvent d'accroître les crues à l'aval. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut avoir une gestion concertée à l'échelle des bassins. Et c'est bien ce que font les établissements publics aujourd'hui qui travaillent à ces échelles-là. Hein. Par exemple, Seine-Grand-Lac, dont on a parlé tout à l'heure, qui essaie de faire en sorte que les zones qu'on utilise pour faire l'expansion de crues à l'amont permettent de protéger l'aval, donc voilà, avec une certaine solidarité entre les territoires.
On entendait à un moment Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Est-ce que justement, dans ce cadre-là, la métropole a un rôle important à jouer?
Je dirais que la métropole, elle est vulnérable par essence, voilà, parce qu'il y a des zones qu'on ne pourra pas déplacer, voilà, des zones historiques, etc. Donc elle doit être partie prenante dans la conception d'ouvrages qui vont lui permettre de faire diminuer le risque localement.
Alors, est-ce que il manque encore des choses justement pour qu'il y ait un pilotage plus cohérent?
Un pilotage plus cohérent, probablement que
Il y a beaucoup d'acteurs, hein, dans ce...
Il y a beaucoup d'acteurs sur la gestion des inondations, mais en fait, c'est compréhensible parce que vous avez beaucoup d'enjeux. Vous avez des enjeux liés aux habitants, aux infrastructures, à l'énergie, au réseau, etc. Donc, c'est normal que ce soit difficile de trouver des solutions concertées. Et puis, en fait, des adaptations pour la gestion de crues peuvent aussi avoir des effets qui sont pas toujours positifs pour d'autres aspects. Si vous mettez un barrage au milieu d'une rivière, ça a des conséquences sur la continuité écologique, par exemple. Donc voilà. Donc les solutions sont pas très simples. Voilà. Je sais pas si je réponds bien à votre question, mais il y a encore du travail à faire pour faire en sorte qu'il y ait des solutions globales qui soient satisfaisantes pour tout le monde.
Alors justement, pour la Cour des comptes, en tout cas en 2002, quand elle a sorti son dernier rapport, elle estimait que c'était pas encore tout à fait ça. Elle disait que la gravité du risque n'était pas assez prise en compte par les collectivités locales. C'est encore vrai à vos yeux?
Alors, en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui avec les problématiques d'inondation, c'est que on parle d'événements qui sont peu fréquents. Qui donc par nature on les voit pas souvent et avec des conséquences qui sont pas faciles à estimer. Aujourd'hui, on est quand même dans un contexte où on voit très bien avec les projections de changement climatique qui sont faites qu'il va y avoir une augmentation de la fréquence et de l'intensité des inondations. Donc il y a un gros projet, la Explore 2, qui vient de se terminer, qui a été piloté par une dizaine d'équipes scientifiques en France, où on a bien montré que voilà, dans le risque d'inondation va probablement augmenter, notamment dans le nord de la France, avec des précipitations plus importantes. On va aussi avoir des précipitations intenses plus importantes. Donc ça, c'est lié au réchauffement climatique, qui fait que quand vous avez une masse d'air plus chaude, elle peut contenir plus d'humidité et donc favoriser ces phénomènes intenses. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on voit sur le pourtour méditerranéen, notamment avec l'augmentation de ces phénomènes extrêmes. Et donc, on va avoir à la fois l'augmentation de la fréquence des débordements de cours d'eau, et puis aussi des inondations par ruissellement qui seront probablement plus fréquentes.
Alors, il y a les inondations avec les débordements des fleuves et des rivières, il y a les inondations par ruissellement, il y a aussi des inondations liées aux nappes phréatiques, on y pense moins, mais c'est un problème important aussi.
Oui, c'est un problème important. En 2001, il y a eu une inondation sur le bassin de la Somme qui a été très importante. Et la particularité de ces phénomènes d'inondation par remontée de nappe, c'est que ce sont des phénomènes très lents.
Et puis on ne les voit pas arriver.
Exactement. La nappe monte en termes de niveau et puis à un moment donné devient affleurante. Et donc, en 2001, il y a des habitations qui ont été inondées pendant 5 mois. Et quand vous avez une habitation inondée pendant 5 mois, la seule chose à faire, c'est de la détruire parce que les fondations sont très endommagés. Donc c'est vrai que ce sont des phénomènes qui sont importants, alors qu'ils ne concernent pas tous les bassins, hein, mais sur certains bassins, c'est un risque très important.
Alors en fait, ça monte lentement et donc ensuite ça descend lentement.
Exactement.
Les différents rythmes.
Voilà, c'est ça. En fait, les nappes sont des masses d'eau qui sont assez inertielles en termes de fonctionnement. Et donc, vous allez avoir souvent une montée sur plusieurs années. Enfin, c'est ce qui s'est passé sur la Somme. Vous avez eu 2-3 ans avec des pluies très excédentaires qui ont fait monter progressivement le niveau. Et puis après, ça a débordé et voilà, c'est redescendu plus tard.
Et avec ce type d'inondation, il doit y avoir aussi un impact important sur les infrastructures souterraines. Il y a tous les réseaux de toutes sortes.
Oui, alors les réseaux, mon collègue pourra en parler, mais c'est vrai que par exemple à Paris, vous avez tout un tas de réseaux qui seraient impactés en cas de crue. On parle souvent de la RATP avec les réseaux de transport. Donc la RATP a mis en place toute une cartographie des entrées possibles d'eau dans son réseau que les opérateurs vont aller boucher en temps réel pour éviter qu'il y ait des infiltrations. Mais peut-être que...
Alors oui, c'est mon garage, quand on dit cartographie, on pense évidemment tout de suite à vous. Sur cette surveillance des réseaux, alors il y a plein de réseaux en plus, hein, réseaux électriques,
en fait,
réseaux...
Paradoxalement, on se prépare, et plus on se prépare, plus on découvre notre vulnérabilité. Donc ça, c'est une bonne chose, et cette préparation, elle doit passer par justement la cartographie de non seulement des zones inondables, mais également de ce qu'on appelle les zones de fragilité. Et donc depuis quelques années, on a mis en place un groupe de travail avec l'État. Donc l'État fournit des zones inondables à des opérateurs de réseau. Et ces opérateurs de réseau, donc c'est des opérateurs qui travaillent sur l'électricité, sur les réseaux de chaleur, sur l'assainissement, sur l'alimentation en eau potable, la RATP également. Et donc, avec ces zones inondables, ils travaillent sur la vulnérabilité de leur propre réseau et nous fournissent. Donc à l'État et à l'Institut Paris Région, nous, notre rôle, c'est on est un assembleur de toutes ces couches. Et en plus de la zone inondable, on est en possibilité de cartographier des zones de fragilité et ensuite de faire de la culture du risque, d'aller voir les territoires et de leur dire « Regardez, vous êtes en zone inondable ». La plupart du temps, ils le savent, ils connaissent leur zonage réglementaire, leur zonage d'inondation. Et par contre, ils peuvent découvrir leur zone de fragilité de réseau. Et donc là, on commence à travailler avec eux sur la résilience. Que faire en cas d'inondation et surtout que faire à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Il ne faut pas attendre d'avoir les pieds dans l'eau pour être impacté. Donc les zones de fragilité, les zones de transport également pour passer d'une rive à une autre. L'alimentation en électricité est un gros souci parce que vous avez pas mal d'installations qui marchent à l'électricité. Donc tout ça maintenant, ça devient cartographiable et on peut avancer sur ce qu'on appelle nous la vulnérabilité systémique. C'est-à-dire que ça concerne pas seulement les gens qui ont les pieds dans l'eau, mais l'ensemble de la métropole francilienne. Et donc si j'avais un chiffre à citer, tout à l'heure on a parlé environ de 1 million d'habitants en zone inondable, on est plutôt sur 800 000 habitants en zone inondable. Alors ils seront pas tous inondés en même temps, hein. C'est à peu près sur ces 800 000, c'est 80% sur le bassin de la Seine, 15% sur la Marne et puis 5% sur les autres rivières. Et vous devez rajouter à peu près à ces 800 000 et quelques personnes, 2 millions de personnes qui seraient impactées, pas en même temps encore une fois, mais qui seraient impactées par des zones de fragilité.
Donc l'impact effectivement est bien plus large que simplement les zones inondées, c'est effectivement important de le souligner. Et quand vous faites ce travail de sensibilisation, justement, vos interlocuteurs réagissent, il y a des mesures prises justement pour sécuriser les réseaux, pour qu'ils soient moins vulnérables?
Alors, c'est un travail collaboratif. C'est que nous, à l'Institut Paris Région, on n'est pas producteur de données risques. On dépend des données de l'État qui construisent des zones de risque. Et par contre, ensemble, on construit ce qu'on appelle la culture du risque. Cette culture du risque, elle concerne le citoyen, mais elle concerne également les professionnels. Et dans le cadre du travail que je vous ai cité tout à l'heure, les travaux autour des cartes, permettre de se réunir autour d'une table. Et justement, les zones inondables sont transmises à des opérateurs de réseau qui eux-mêmes fabriquent des zones de fragilité. Et ces zones de fragilité servent aux autres opérateurs. Donc il y a un effet boule de neige, ça fait sens. Et la carte permet de... C'est un langage commun entre tous ces différents métiers, entre ceux qui s'occupent de gestion de crise, ceux qui s'occupent de gérer des transports publics, les opérateurs de réseau. Voilà, on a tous nos métiers, nos jargons, notre façon de faire. Et le point commun, c'est la carte qui fait sens et qui, à mon sens, est un pilier de la culture du risque.
Charles Berrin, on a déjà beaucoup amélioré la connaissance des inondations. Quels sont les points qui mériteraient encore d'être creusés, aussi bien pour déterminer peut-être plus finement les zones à risque, pour orienter les stratégies de prévention ou pour réduire les vulnérabilités ?
Je pense qu'aujourd'hui, un enjeu fort, notamment au point de vue scientifique, c'est d'arriver à se projeter dans les décennies qui viennent et mieux comprendre ce que vont devenir ces risques d'inondation avec des difficultés qu'on a aujourd'hui au niveau notamment climatique à prévoir, à simuler les événements extrêmes qui sont des événements locaux, pas très faciles en termes de dynamique de l'atmosphère à modéliser, et ensuite voir comment ces événements de pluie extrême vont se transformer dans les rivières. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on progresse, mais sur lesquelles on a encore des marges de manœuvre en termes de connaissances. Et puis il y a aussi toute la question des incertitudes sur ce qui va se passer dans l'avenir. C'est difficile de savoir parce que on a des incertitudes liées aux évolutions démographiques, socio-économiques, et puis au système atmosphérique lui-même qui est complexe, les interactions avec les océans, les surfaces continentales. Enfin tout ça c'est pas encore très bien connu, donc à mon avis c'est un enjeu scientifique fort pour les années qui viennent sur une meilleure connaissance des risques à venir.
Et alors ces risques ne sont pas toujours suffisamment connus du grand public. Je reviens vers vous, Simon Carrage, puisque justement vos cartes sont disponibles. Vous pouvez peut-être justement nous dire un mot de Cartovis.
Alors on a développé cet outil Cartovis sur la base d'un autre outil qui s'appelait avant Baignade Interdite, donc avec un nom un peu décalé, pour justement sortir du microcosme, de cet écosystème de risque pour toucher d'autres personnes. Donc sur la base de ce premier outil Baignade Interdite, on a construit avec l'État Cartovis ZIP, et en fait cet outil il sert à combler un peu la distance qu'il peut y avoir entre l'approche technique des cartes d'inondation qui peuvent être compliquées à comprendre et puis l'approche empirique qu'on doit avoir du risque, c'est-à-dire pouvoir se projeter dans une carte. C'est les cartes de risque, c'est des modélisations, ça peut être très technique. Et nous, ce qu'on fait, on essaye de vulgariser un peu cette connaissance-là. Et puis ensuite de croiser ces zones inondables avec tout un tas d'enjeux pour que justement celui qui regarde la carte puisse se projeter sur cette carte-là en disant « D'accord, c'est ma commune, c'est mon entreprise, c'est ma maison, c'est l'école de mes enfants, c'est la station de métro ou la gare que je prends. » Et il peut visualiser ces zones de risque, il peut visualiser les zones de fragilité que j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on commence à parler vraiment de culture du risque, à prendre conscience d'eux. Et ce Cartovis sert à ça, à transmettre cette vision qui peut être compliquée de l'inondation.
Merci Simon Carrage, merci Charles Perrin. Inondation, vigilance en Île-de-France. Marie-Aimée Copleutre signe le grand reportage de cette semaine. Il a été réalisé par Annie Brault. À la technique, Ludovic Auger. Documentation, Christine Anzano et Véronique Le Faller. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.